La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui mardi, deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivain Louis Guillou, une émission qui vous est proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Kaczmarek et avec à la console Jean Frédérix. Il est né un an avant le XXe siècle dans la ville de Saint-Brieuc qui allait devenir le décor de ses plus fameux romans que sont Le Sang Noir et La Maison du Peuple. Son père cordonnier, sa mère modiste, il les a portraiturés en filigrane dans nombre de ses livres qui sont pour beaucoup inspirés par sa vie. Guillou s'est éteint à l'âge de 81 ans, toujours à Saint-Brieuc, après avoir vécu également à Paris, après avoir manqué de peu le prix Goncourt et après avoir fait le voyage en URSS avec André Gide, mais sans jamais livrer son sentiment exact à ce sujet. Tout cela, nous en avons parlé hier avec Grégoire Leménager. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Guillou s'est donc engagé politiquement comme compagnon de route du Parti communiste tout en gardant avec le parti ses distances. Puis, à côté des réfugiés espagnols qui arrivaient à Saint-Brieuc durant les années de guerre, sur cet aspect politique, rendez-vous demain pour une émission avec Jean-Baptiste Legavre. Jeudi enfin, nous parlerons de Guillou et les autres écrivains de sa génération d'abord, ce sera avec Henri Godard. Et puis Mona Ozouf nous parlera de sa femme, Renée, qu'elle a connue et qui est l'une des oubliées de l'histoire Guillou. Enfin, Agnès Spiekel-Courdy évoquera la relation importante qu'il a entretenue avec Albert Camus. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer plus largement le parcours d'écrivain de Louis Guillou, je reçois Sylvie Golvet. Elle a soutenu en 2008 une thèse de doctorat sur l'auteur du Sang Noir sous la direction de Michel Touré à l'université de Rennes. Elle en a tiré en 2010 le livre Louis Guillou, devenir romancier. C'était aux presses universitaires de Rennes. Bienvenue à tous. Voici la compagnie des auteurs.
Il me semble que dès l'adolescence, j'ai refusé tout ce qui n'était pas l'envie de raconter des histoires, d'écrire des bouts de papier, de très bonne heure, de très bonne heure. Ensuite, eh bien, mon Dieu, ça s'est développé, et ma jeunesse, qui a été une jeunesse assez heureuse, je dois dire, et libre, était une jeunesse pauvre, mais je préférais ça à faire des choses qui n'étaient pas de mon goût. Et j'ai souvent refusé pas mal de choses pour en choisir une autre dont je ne savais absolument pas ce que j'en ferais, ce que je deviendrais. Mais ça s'est trouvé que c'était l'écrire qui était l'étoile majeure. Enfin, je voulais ne dépendre que de moi-même. Et je crois que j'avais raison.
Louis Guillou au micro de Roger Vrigny. Bonjour Sylvie Golvet.
Bonjour.
Alors on vient de l'entendre, c'était un vrai choix pour Guillou que de devenir écrivain, ça n'était pas donné d'avance et c'est d'ailleurs la question qui vous sert de fil conducteur dans votre livre, comment cet homme, né pauvre à Saint-Brieuc, a réussi à devenir le romancier qu'il est finalement devenu.
Oui, effectivement, c'était le fil conducteur de la recherche. À laquelle on ne peut pas répondre en quelques lignes ni en quelques minutes parce que c'est vraiment très compliqué. Il a dû prendre à bras le corps plusieurs questions qui sont de l'ordre de l'apprentissage du métier parce que par comparaison avec le métier d'artisan de son père et des amis de son père et de toutes les personnes qu'il connaissait depuis son enfance, il pense que le métier d'écrivain s'apprend. Deuxièmement, il a dû aussi prendre à bras le corps le problème financier, économique, tout simplement, c'est-à-dire partir à monter à Paris avec quasiment rien. contre l'avis de son père d'ailleurs, financièrement, comment faire ? Il avait très peu de compétences à offrir, il savait assez bien l'anglais, en dehors de ça, il ne savait pas comment il allait s'y prendre.
Et pourtant, à en croire Louis Guillou lui-même, ça n'a pas été si difficile que cela, c'est ce qu'il dit en tout cas Sylvie Golvet.
À la fois, il dit que ça n'a pas été difficile parce que, effectivement, il savait que ce qu'il voulait faire, c'était écrire. Donc, il avait déjà comme un cap, en quelque sorte. En même temps, il aime bien aussi raconter tous les petits boulots qu'il a dû faire. C'est toujours, à la fois c'est vrai et à la fois c'est toujours intéressant de le montrer. Et ça lui donnait aussi l'image d'un pauvre, ce qu'il a été pendant longtemps et que même à la fin de sa vie, il a encore été par moments, puisqu'il a dû faire appel à des personnes pour l'aider, notamment ouais. Yves Jégu, par exemple, de France Culture, qui l'a beaucoup aidé. Donc, oui.
Mais l'image d'un pauvre, mais l'image d'un homme dépourvu d'ambition, est-ce que ça, c'est une image qui est réelle ou est-ce qu'il l'a cultivée ?
Alors, l'ambition sociale, je pense qu'il n'en avait pas, effectivement. Mais l'ambition...
Il la combattait même, sans doute. C'est quelque chose qu'il devait trouver un peu collant, l'ambition sociale. Non
oui, et puis culpabilisant, de toute façon. Vis-à-vis des fortes convictions qu'il avait intériorisées par son origine familiale. Mais de l'ambition littéraire, de l'ambition d'artiste, oui, il en avait. Il voulait faire une grande œuvre, il voulait faire une belle œuvre, et il tenait à ce que ça soit reconnu. Mmh. C'est vrai.
Alors, il ne savait pas faire grand-chose, dites-vous, Sylvie Golvet, mais il a tout de même été embauché après sa montée à la capitale par le journal L'Intransigeant en 1922. On peut dire que à partir de là, il a commencé à ouvrir sa carrière d'écrivain.
Oui, c'est-à-dire que ça... En fait, c'était conçu un peu comme démarche à monter. Hein. Et effectivement, le fait d'entrer à L'Intransigeant lui a fait connaître le fonctionnement d'un journal, lui a fait connaître des personnes qui écrivaient des articles dans des revues, par exemple René Jeanne, dont il a été le secrétaire simultanément pendant quelques heures par jour. Lui a fait observer beaucoup de choses qui l'ont éclairé aussi sur qui il était. Et comme il le dit dans l'extrait que vous avez passé tout de suite, l'a conduit peu d'années après à décider qu'il ne voulait dépendre de personne, et en particulier, là je le cite, d'aucun imbécile, et il voulait croire que c'était possible.
Et sans doute y est-il parvenu. Les journaux, c'est important aussi parce qu'il commence par écrire des contes dans les journaux, Sylvie Golvet.
Oui, il commence par écrire des petits contes qu'il arrive à placer parce que c'est vrai qu'il n'a pas de relation à Paris en y arrivant, mais en même temps, il se revendique comme un homme, comme un fils de gauche, un homme de gauche, et il y a de la solidarité aussi dans les milieux de gauche. Et c'est grâce à ça qu'il peut placer des petits compte dans le journal Le Peuple, journal de la CGT, au Populaire, grâce à Jean Longuet, qui l'apprécie tout de suite, avec qui il arrive à parler d'homme à homme tout de suite, grâce à cette identité de fils de militant socialiste, au sens du 19e siècle. Hein.
Donc c'est bien des petites marches qu'il va monter les unes après les autres, parce qu'on fait toujours la comparaison avec Céline, mais c'est pas tout à fait pareil, parce que Céline arrive avec un roman qui tout de suite est un coup de tonnerre, alors que là, c'est plutôt une petite progression assez construite finalement.
Assez construite, c'est vrai, c'est un apprentissage progressif des codes aussi, des milieux littéraires. Qu'il ne possédait pas du tout. C'est un apprentissage progressif de l'écriture, parce que écrire des petits textes, c'est déjà s'exercer à faire quelque chose qui, par exemple, va choisir un point de vue et puis réussir à arriver à une fin qui est un petit peu percutante. C'est à rentrer aussi dans un format, ce qui va aussi lui apprendre ce qu'il devra faire plus tard. Donc voilà, oui, c'est vrai, c'est un apprentissage progressif, il le prend comme tel et il le réussit comme tel.
La première chose sérieuse que j'ai faite, c'est un livre très maladroit, je crois, très artisanal, qui s'appelle la Maison du Peuple, mais je ne pouvais pas et ne pensais pas pouvoir faire autre chose pour entrer dans le monde, enfin disons, n'est-ce pas ?
Encore vous ennuyer, mais je regrette beaucoup. Mais la Maison du Peuple, c'était tout de même pour porter témoignage.
Oui, alors là, disons que j'étais habité par cet ensemble de choses qui avaient constitué mon enfance et un certain espoir que j'avais partagé avec mon père et avec ses camarades. Il y avait eu la guerre depuis, il y avait la scission des partis, il y avait eu la vie ouvrière, la vie de la famille de l'artisan qui était mon père. Tout cela, vous pensez bien, me restait très cher, très vif. Et sans volonté décidée, pas du tout exprès, j'ai commencé par là, pour rendre hommage, enfin encore un mot que faudrait rayer de notre vocabulaire, mais enfin, par amour, si vous voulez, pour les miens, pour ce qu'ils sont et le monde auquel ils appartiennent, et moi avec eux. Et aussi pour bien dire aux gens que j'allais rencontrer éventuellement, ben voilà qui je suis.
C'est tout. Une carte de visite.
Une carte de visite.
Une carte d'identité aussi.
Une carte d'identité, pas forcément un passeport.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons et nous écoutons Louis Guillou à l'instant avec vous, Sylvie Golvet, quand il parle de carte de visite qui n'est pas un passeport. Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie qu'il veut dire, alors là je vais le citer, qui il est en disant d'où il vient. Donc c'est vrai, mais si on reprend notre idée des petites marches, entre des petits textes, des petits contes publiés dans des journaux, et puis la Maison du Peuple, qu'il dit être le premier texte qu'il a écrit, il y avait des marches intermédiaires, parce que dans les archives, on découvre parmi les centaines de milliers de papiers, de feuilles, un petit roman qu'il a écrit en 1923 qui n'a pas trouvé preneur.
L'indésirable. Bah, évidemment, avec un titre pareil. Hein.
Voilà, qui va peut-être être réédité. Deuxièmement, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Échec et mat. Ben
voilà, avec un titre pareil, ça ne peut pas marcher non plus.
Vous avez les explications peut-être. Il a cherché à connaître les explications justement, pourquoi ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'il avait encore à apprendre. Et puis ça a été aussi l'occasion, ces deux textes, de les faire lire, de rencontrer Gabriel Marcel, etc. Et ensuite, il a écrit un petit texte, un texte d'une quarantaine de pages qui s'appelle « Souvenirs sur Georges Palante », qu'il voulait publier à Europe. On ne l'a pas accepté, qu'il voulait publier à la NRF, ça n'a pas été retenu non plus.
On demandera tout à l'heure à Éric Dussert qui fait la chronique de la mi-émission et qui dirige Europe, pourquoi sa revue n'a pas accepté à l'époque Louis Guillou. Mais ça n'est pas encore le sujet, c'est Golvé.
Oui, et donc, en fait, il a eu une réponse de Robert France qui lui a dit, mais ni Georges Palante, ni vous n'avez un nom suffisamment... connu, retentissant, identifiable pour que notre revue retienne votre texte. Donc il l'a publié dans une petite revue nantaise, La Ligne de Cœur. Et ensuite, effectivement, il a démissionné de l'Intransigeant et il est revenu à Saint-Brieuc, un petit passage à Toulouse, et il a écrit La Maison du Peuple assez rapidement, puisqu'en moins d'un an, il a réussi ce texte qui a eu un beau retentissement. Une belle entrée, ça lui a fait une belle entrée dans le monde littéraire, avec, une carte de visite où donc il disait qui il était. Parce que c'est un roman où il raconte son enfance, ses jeunes années, mais en fin de compte, il ne parle pas de lui. Il parle de son père, des camarades de son père, de sa mère aussi et de sa sœur un peu, et de tout ce milieu d'ouvriers, de personnes qui avaient l'espoir de construire une maison du peuple, qui aurait été un lieu où ils pouvaient se rencontrer, y installer des coopératives de consommation, coopératives de production, etc., faire des conférences pour les enfants des ouvriers, disent-ils. Donc voilà.
C'est un livre sur une utopie.
Oui, c'est un livre sur une utopie, encore que dans quelques villes, avant 1914, des maisons du peuple ont été construites, en particulier à Saint-Nazaire, mais aussi à Fougères. Et ça, c'est très important dans la mesure où ce texte, donc La Maison du Peuple, va être donné à Lévy, qui va le transmettre à Jean Guénaud, qui lui est né à Fougères, de père ouvrier cordonnier, donc qui avait participé à la mise en place d'une Maison du Peuple aussi. Donc il y a aussi des coups de chance, on va dire, des rencontres, des croisements.
Des coups de chance et puis une attitude aussi, parce que toutes les petites marches que vous signalez, Sylvie Golvet, il les monte, mais il y en a certaines qui sont cassées, vous venez de le dire, hein, des échecs relativement nombreux, mais c'est quelqu'un qui sait écouter les conseils. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment donné, il arrive à percer.
Oui, effectivement, il va à la recherche des conseils directement en allant soumettre ses manuscrits et écouter les réponses. Aussi en allant chercher des informations auprès de d'autres écrivains, c'est-à-dire qu'il a lu énormément et pris des notes, les archives en témoignent, en lisant les mémoires, les carnets de travail, les correspondances de d'autres écrivains. En particulier ceux qu'il aimait, évidemment, mais aussi ceux qu'on lui a fait découvrir alors qu'il n'y serait pas allé de lui-même. Donc il écoutait beaucoup, effectivement. Et avec d'autres amis, ils avaient fondé un petit groupe, les Vorticistes, avec Jean Grenier, Henri Petit, André Chanson. Et c'était une sorte de contrat moral entre eux. L'idée, c'était de s'entraider pour s'ouvrir des débouchés de publication, mais aussi lire chacun les manuscrits des autres et en faire, en toute liberté et sincérité, la critique. Et ça aussi, c'était un appui et une force qui a fonctionné jusque dans les années 1970.
Donc les Vorticistes sont restés dans la vie de Louis Guillou jusqu'à très tard.
Oui, voilà. Henri Petit en particulier, Jean Grenier bien sûr, André Chanson aussi. Et ils ont continué à se favoriser les uns les autres.
Alors il y avait aussi Max Jacob, mais lui c'était pas un Vorticiste. Mais on apprend dans votre livre que Max Jacob avait lu les souvenirs de Georges Palante et qu'il l'avait beaucoup encouragé, Louis Guillou, en disant que ce texte était très bon.
Oui, oui, oui. Louis Guillou a rencontré Max Jacob à Saint-Brieuc grâce à Jean Grenier. Et effectivement, il y a eu une belle amitié entre eux. Ensuite, Max Jacob est revenu de temps en temps à Saint-Brieuc, dans leur maison rue Lavoisier. Ils s'encourageaient. Bon, ils racontent un petit peu les voyages surréalistes, entre guillemets, avec Louis Guillou, justement pour aller donner les souvenirs sur Georges Palante à La Ligne de Cœur, cette revue nantaise. C'est un conseil de Max Jacob et Max Jacob l'a accompagné à Nantes pour aller lui faire connaître. Oui. Vous voyez, tout cela s'organise à la fois par la spontanéité des rencontres, mais aussi parce que, comme vous dites, Guillou était attentif à tout ce qui pouvait l'aider à s'améliorer et... Ouais. Et ça a été une manière de prendre les choses très, très productive.
Allez, un autre extrait de La Maison du Peuple, lu en 1954, à cette fois, par Julien Berthaud.
Mon père, qui se levait avec le jour, ne quittait jamais son travail avant 8 ou 9 heures du soir. Les camarades qui finaient à 7 heures passaient devant son échoppe en remontant à la soupe. Ils entraient le voir. Il était penché sur son ouvrage, le front lié à l'abat-jour vert de sa lampe à pétrole, une grosse lampe de cuivre qui éclairait un coin de la place et que l'on voyait de loin. Il s'asseyait au hasard sur un tas de souliers, sur un tabouret ou par terre. En hiver, il faisait toujours bon le soir dans l'échoppe. La lampe répandait sa chaleur. C'était le seul moment de la journée où mon père n'eut pas froid. Quand il faisait beau, la porte restait grande ouverte. Il y avait une petite marche pour entrer, il était bien rare que personne n'y fût assis. Pello aimait y venir. C'était un plâtrier, grand et mince, comme une latte. Il avait de petites rondelles de plâtre plein les cheveux et la moustache. Assis sur le devant de la porte, il laissait traîner ses jambes sur le trottoir. Son pantalon de velours blanc à côtes était trop court. On voyait ses chaussettes de grosse laine rouge qui retombaient sur ses brodequins difformes, mangés par la chaux. Mais l'hiver, on ne devinait que des ombres à travers les vitres brumeuses de la porte. Parfois, un éclat de voix passait au dehors, brusquement couvert par la charge du marteau, battant le cuir sur la pierre. Le soir, le silence était si grand qu'au premier coup de marteau, les gens tressaillaient dans le quartier. Mais dans les chopes, la discussion se poursuivait malgré le vacarme, sauf pourtant dans les quatre graves où mon père posait son marteau sur son genou et croisait les bras. « Bello prétend, disait le Bras, qu'on fait tout pour l'ouvrier aujourd'hui. Mais moi, je te dis que c'est du battage électoral. » La violence de le Bras faisait rire Bello. « Tu es un paquet de nerfs, le Bras. Tu montes comme la soupe au lait. »
Cet extrait, que vous évoque-t-il, Sylvie Golvet ?
Il m'évoque l'échoppe d'un cordonnier avec ses amis qui viennent en parler. Et dont Louis Guillou se souvient en particulier parmi les camarades de Louis Hinault, qui était le responsable d'une grande coopérative et qui, disait-il, était admirable dans sa manière de conter les histoires. Et ça aussi, ça compter, sans jeu de mots, pour l'écriture de Guillou, dans la mesure où Guillou est un conteur, en fait. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des extraits où il se définit plus comme un conteur qu'un écrivain, mais il est un conteur. Et cette source, cette racine populaire de l'art oral, auquel s'ajoute l'art des chansons, auquel il était très sensible, j'ai essayé de le mettre en valeur dans mes recherches, ça fait aussi partie de sa manière personnelle, je dirais, d'avoir abordé l'art d'écrire.
Et puis ça peut évoquer tout simplement l'artisanat, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais là on voit bien l'artisan qu'était son père, et lui aussi c'était un artisan, il se définissait comme un artisan écrivain.
Comme un artisan écrivain. Alors, si vous me posez une question de cette façon, précédente, qu'est-ce que ça m'évoque ? Ça m'évoque aussi dans cette description très rapide des personnages. Il est rare qu'il en fasse un portrait physique, visuel. En général, il fait parler ses personnages, et c'est ainsi qu'on les situe, qu'on les sent. Qu'on les repère, qu'on les... Là, il parle des morceaux de plâtre qui restent dans les cheveux du plâtrier, etc. Moi, ça m'évoque quelque chose très directement et très personnel, parce que peut-être que vous m'avez présenté comme chercheur, ce que finalement je suis, je le reconnais.
Indubitablement.
Mais en même temps, je fais des petits chantiers de peinture. Je suis aussi une travailleuse manuelle et qui considère que quand on fait du travail intellectuel et du travail manuel, on marche sur ses deux jambes. J'ai toujours été comme ça.
Aussi et artisan-chercheur, finalement.
Voilà, peut-être. Voilà. Et il m'arrive d'arriver dans un bureau de poste ou autre avec de la peinture oubliée sur les cheveux et j'observe toujours les réactions, ou avec des mains qui ont du mal à se nettoyer, parce que j'ai aussi de la mécanique automobile. Et j'observe les réactions assez effarées de certaines personnes et je me dis que oui, un écrivain avait là matière à décrire beaucoup de choses, à écrire des réalités humaines.
Et ça a joué ce double statut dans votre intérêt pour Louis Guillou ?
Oui, c'est vrai. J'ai choisi ce sujet de recherche pour plusieurs raisons, parce que la personne, Michel Touret, avec qui je voulais travailler absolument...
Qui a dirigé votre thèse.
Qui a dirigé ma thèse et qui est devenue une amie, m'a informé que les archives Louis Guillou allaient s'ouvrir à Saint-Brieuc et que ça allait être vraiment un trésor, quoi. ce que c'était. Et en même temps, elle m'a suggéré de commencer par lire La Maison du Peuple et le Sang Noir. Et j'y ai trouvé des thèmes, presque des thèmes de rumination, d'obsession que je partage avec Guillou. Et donc je me suis dit, c'est intéressant, c'est là que, en plus de la guerre, c'est... Oui, c'est vrai.
Et est-ce que votre famille vous a aidé dans votre démarche intellectuelle ? Parce que vous insistez beaucoup dans votre livre pour dire que la famille de Louis Guillou, famille d'ouvriers et d'artisans, comprenait très bien son travail et l'a beaucoup encouragé.
Oui, sa famille l'a beaucoup encouragé. Je ne vais pas me risquer entre moi et Guillou. Mon père était ouvrier d'usine. né dans une ferme du centre-Bretagne où il m'a raconté ce que, à sa façon, ce que Louis Guillou raconte dans les luttes pour défendre les paysans qui étaient victimes des ventes saisies dans les années 30, parce que mon père était assez âgé. Il m'a aussi parlé de la résistance et quand j'ai trouvé des évocations de la résistance, en particulier dans le jeu de patience. Oui. Il y a là tout un parallèle possible, mais on est là quand même pour parler de Louis Guillou d'abord.
Ouais. Dans votre livre, il y a cette phrase, « Chez les plus pauvres, écrire est un métier comme un autre. »
Oui, c'est un métier comme un autre, c'est-à-dire que le père de Louis Guillou, qui s'appelait Louis aussi d'ailleurs, cordonnier, il avait une échoppe, et il avait des amis ouvriers qui venaient là parler le soir en passant, mais il avait aussi affaire à la clientèle un peu aisée de la ville, parce que seules des personnes un peu aisées peuvent avoir des beaux, des belles bottes ou des belles chaussures en cuir qu'il faut venir accommoder. Mais justement, il installait la relation avec les clients riches dans une façon que Guillou a reproduite un peu, c'est-à-dire que il avait l'aval de Louis Guillou, donc écrivain, le fils avait l'aval de son père et de sa famille pour fréquenter des personnes riches, lettrées, identifiées comme des bourgeois, donc potentiellement des traîtres à la cause, des exploitants, enfin etc. Son père était quand même un communiste assez enragé par certains côtés. Donc on pouvait les fréquenter, mais à condition que ce soit utile pour le métier, pas pour des relations d'amitié. Et très tôt, ça lui a posé des problèmes.
Oui, et puis il y a aussi cette idée que finalement, être dans la précarité, comme on l'est quand on est écrivain, ça n'est finalement pas tellement différent de la précarité du reste de la famille. Et donc, on comprend très bien que le fils Louis ait fait ce choix. On lui fait même des chaussures pour qu'il soit plus présentable. Tout le monde lit les livres de Louis Guillou. Il prend peut-être même des conseils auprès de sa famille. Il écoute en tout cas ce que disent ses parents, ses proches.
Oui. Les avis de ses parents, c'est-à-dire père, mère, sœur, beau-frère, sont très importants. Il en tient compte effectivement. Et puis on peut parler d'Angelina, qui est un roman qu'il a publié en 1934, qui n'est pas une grande réussite littéraire peut-être, qui est tout de même très intéressant, mais en tout cas, ce livre a été écrit à la demande de sa mère. C'est-à-dire que quand sa maman a lu La Maison du Peuple, elle a dit « Oui, c'est bien, tu décris la vie des pauvres, mais tu n'as pas tout dit. » Et il a retenu ce « mais tu n'as pas tout dit » et il lui a dit « Dans ces conditions, est-ce que tu voudrais m'écrire tes souvenirs ?» Et la maman de Guillou, Philomène, a écrit une 80 pages environ sur des feuilles disparates, d'une belle écriture régulière, sans marge, on ne gaspille pas le papier, attention, sans faute, mais dans un langage à elle. Par exemple, il y a des phrases du genre « Le métier de lamier dont exerçait mon père », etc. Des phrases comme ça. Et donc, il a utilisé les notes de sa maman, il les a retravaillées pour en faire Angelina. Et sa mère était évidemment ravie.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nous allons continuer cette conversation avec vous, Sylvie Golvet, sur Louis Guillou dans quelques minutes. Mais pour l'heure, c'est En Compagnie des Revues. En Compagnie des Revues avec vous, Éric Dussert, du Matricule des Anges, mais également contributeur, et non pas directeur, comme je l'ai dit bêtement, de la revue Europe.
Bonjour Mathieu.
Bonjour. Alors, Guillou, je crois que vous êtes un lecteur de Guillou. On peut dire un mot peut-être pour commencer là-dessus.
Je suis même un fan.
Ah, un fan, carrément.
J'ai une dilection prononcée pour un petit texte qui est souvent peu cité de Louis Guillou qui s'appelle Coco perdu, qui est pour moi une des merveilles de la littérature du siècle dernier en France et qui relate, c'est un monologue intérieur d'un petit vieux qui a perdu sa petite vieille. C'est admirable. On ne sait pas ce qu'il est advenu de la petite vieille. Est-elle morte? A-t-elle quitté le petit vieux? Le doute subsiste jusqu'à la fin du texte. Et il y a une douceur et une tendresse dans ce monologue, dans ce texte qui est absolument merveilleux.
Donc on conseille à nos auditeurs de lire Coco perdu, on le conseille aussi aux lecteurs du Matricule des anges dont vous venez nous parler, le Matricule de septembre. Il consacre son dossier à Joël Baquet qui est présenté avec un sous-titre très géographique. Il serait un écrivain sans frontières. Expliquez-nous ça.
Eh oui, sans frontières, mais il n'est pas tout à fait géographe, Joël Baquet. Il est à la fois jeune retraité de la police des frontières et écrivain. Parallèlement à sa carrière de CRS, puis de gendarme et finalement de douanier, il a, ce niçois, construit une œuvre depuis plus de 15 ans. Son premier livre, Angle plat, était un recueil de poèmes publié par Orgeux. Et depuis 6 ans, il publie chez POL des romans, dont le dernier s'intitule La fonte des glaces, où il perpétue une ironie tendre, surpiquée d'un burlesque très très assumé. Alors un anachronisme dans ce roman nous empêche de croire qu'un jeune retraité d'aujourd'hui puisse avoir été un rappeur durant son adolescence. Il manque 10 ou 15 ans quand même, même si nos amis douaniers prennent leur retraite parfois assez tôt. Mais l'improbable nimbe ce livre complètement et on y voit un charcutier conduit à la position de représentant de l'écologie planétaire, ce qui n'est pas rien. Alors je voudrais citer la quatrième de couverture de ce livre parce qu'elle est relativement mémorable, je pense. Et je cite, « Un homme traverse une brocante, il se laisse tenter, on emballe son achat dans de vieux journaux, les choses s'enchaînent, il devient une icône de la scène écologique. » Voilà, donc c'est direct et sans chichi, on n'est pas loin du rapport de gendarmerie, et pas de géométrie.
Géométrie aussi, parce qu'on parle de géographie.
Qui aurait baigné donc dans un humour pince sans rire.
Également au sommaire du Matricule des anges, La rivière d'Esther Kinski, une odyssée plus détendue où le regard vogue entre un passé dépassé et un présent déserté.
Exact. Comme le japonais Tanaka Shozo, qui a le premier cartographié les rivières du Japon, l'allemande Esther Kinski propose dans son roman La rivière, qui est paru chez Gallimard, un cheminement le long des cours d'eau labyrinthiques des environs de la grande banlieue de Londres. Alors plus qu'un récit à la Dickens, c'est une sorte d'odyssée du regard, où les emprises du temps sur le territoire et les êtres sont autant observées que le terrain lui-même. Des lieux où règne l'indistinct, on imagine, le confus et le glauque. Et cela rappelle quand même tout d'un coup un petit livre qu'on a lu en 2007, qui n'avait pas eu chez Fayard, qui s'appelait un livre blanc de Philippe Vasset, où on croisait comme ça des zones sans vie. Et cela rappelle aussi le grand poème de Jacques Sommer, La prose d'Aubervilliers, qui avait paru chez Dumerchais en 96. On retrouve cette même poésie de la déliquescence chez Kinski, une poésie vraiment particulière, qui rappelle même les grands rhétoriqueurs.
Une courte citation.
Très courte. Entre des barres de fer dévorées par la rouille, les briques des murs et des piliers se désagrégeaient et retournaient à ce qu'elles avaient été avant leur transformation. De la terre, de l'argile, le dépôt d'alluvions, de cours d'eau depuis très longtemps écoulés.
Et puis alors on se souvient très bien du Garçon sauvage de Paolo Cognetti qui était publié en 2016 chez Zoé. Eh bien le voilà de retour avec Les huit montagnes, un roman qui promet, selon donc le Matricule des anges, monts et merveilles.
Eh oui, alors ce roman raconte la rencontre d'un fils unique issu de la ville et soumis au diktat du marche ou crève d'un père un peu dur et un sauvageon des alpages pour laquelle la montagne est un espace de liberté. Alors évidemment, un été d'amitié, d'émancipation, et puis 15 ans plus tard, un projet utopique, et une cabane reconstruite, et un ermitage un peu anachronique. La question qui se pose, c'est que l'harmonie qui a été créée va-t-elle résister à la modernité et au tourisme ? Il se peut que non, en particulier parce que la solitude et le silence sont deux espèces en voie de disparition.
Merci beaucoup Éric Dussert, nous allons donc nous ruer sur ces ouvrages en attendant de vous retrouver à ce micro, à très bientôt. C'est la suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes toujours avec Sylvie Golvet pour parler de l'écrivain briochin Louis Guillou.
Il se trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement difficile, en tout cas pour moi, n'est-ce pas ? C'est de repenser au livre qu'on a écrit. Je n'en ai jamais relu un, bien sûr. Et quand on m'en parle, je dois vous dire que cela me gêne et fait plus que me gêner. Cela m'inquiète et cela m'est en somme antipathique, au sens propre du mot, n'est-ce pas ? Un livre achevé, c'est la fin d'une cure psychanalytique. On a complètement détruit l'univers qu'on avait voulu proposer au lecteur, n'est-ce pas ? Et même cet univers ne reparaît plus dans les rêves. Il est annihilé, anéanti, évacué, n'est-ce pas ? On ne revient pas dans les amours anciennes. Il faut, n'est-ce pas, à chaque livre qui a été fait, si on peut employer l'expression de faire un livre se fait, n'est-ce pas ? Eh bien, il faut se refaire une âme pour autre chose, c'est-à-dire, on me dit souvent que je suis un homme du passé. Eh bien, à condition d'aimer l'avenir encore davantage, n'est-ce pas, et de voir en avant plutôt qu'en arrière. Mais j'ai une tendance, en effet, à essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Alors on voit bien, Sylvie Golvet, en écoutant cette archive, à quel point Guillaume est de lui-même dans ses livres, puisqu'il entretient un rapport quasiment radioactif. On a l'impression qu'une fois qu'ils sont finis, c'est comme s'il ne pouvait plus les toucher, les ouvrir.
Oui, effectivement, oui, oui. Un livre comme une aventure pour réussir à comprendre quelque chose, toujours. Un livre qui se fait. Et une fois qu'il est fait, qu'on a trouvé la forme, le mouvement, dit-il, qui correspondait au sujet, voilà, c'est fait.
C'est fait, mais alors, fait. On a mis une partie de soi et on a fait une thérapie, il y a de la psychanalyse, comme il le dit dans l'acte d'écrire pour Louis Guillou.
Oui, oui, il a essayé, en particulier dans Le Sang Noir, de se débarrasser d'une obsession, on pourrait dire une obsession culpabilité, puisque, bon, hier, Grégoire Le Ménager a rappelé des éléments sur Georges Palante qui devient Cripure, enfin, qui devient Cripure, mais il y a aussi du Louis Guillou dans Cripure, enfin voilà, c'est aussi le rapport de Palante avec Cripure, mais Palante, le suicide de Palante a obsédé Guillou pendant longtemps.
Mais il semblerait que Guillou ait donné le pistolet qui a permis, si l'on peut dire, à Palante de se suicider.
Oui, il avait offert en cadeau le pistolet avec lequel Palante s'est suicidé en 1925. Il s'est, voilà. Et Guillou s'est senti coupable. Après, il y a de la culpabilité chez Guillou à beaucoup de point de vue, c'est aussi un peu son âme russe ou son côté russe, son côté dostoïevskien. Mais oui, il y a un côté comme ça. Chaque œuvre est une aventure. On ne sait pas en commençant où on va être conduit. L'idée est de comprendre quelque chose, de dénouer un nœud. Et puis, il dit ensuite que le dernier collaborateur de l'écrivain, c'est le lecteur. Et donc, le livre appartient après au lecteur, qui en font ce que parfois il ne souhaitait pas qu'on en fasse, qu'il le lise d'une manière qui peut aussi l'éclairer sur les contresens. Ça a été, par exemple, à propos de la Maison du Peuple, quand notamment Groetesson, je sais pas trop la prononciation de son nom, de Gallimard, lui dit, ben c'est bien, quand on a lu La Maison du Peuple, on a envie d'être pauvre. Mais il dit, mais c'est pas ça que je voulais, enfin, c'est... Et voilà, et donc il se retrouve avec des lectures qui peuvent être à contresens par rapport à ce qu'il avait pensé faire. Mais après, chaque nouveau livre, il dit aussi que quand il aborde un nouveau sujet, un nouveau livre, il dit que l'expérience passée ne lui sert pas, c'est-à-dire qu'il ne réutilise pas les mêmes recettes, en quelque sorte. Mais il y a quand même un acquis dans l'exploration de ses propres capacités.
Mais alors, pour revenir à ce qu'il disait dans cette archive sur cette idée quand même qu'il abandonne un morceau de lui à chaque livre et que c'est une forme de psychanalyse, c'est Palante justement qui l'avait un petit peu initié à la psychanalyse. Et donc ça boucle un peu la boucle ici, la Sylvie Golvet.
Oui, qui lui a fait connaître les travaux de psychanalyse parce que Palante lisait l'allemand et donc il en avait fait des lectures et des chroniques pour le Mercure de France où il faisait paraître des articles de philosophie. Guillou a été extrêmement intéressé par la psychanalyse. D'ailleurs, dans Floréal, il fait un compte rendu d'un des livres de psychanalyse. Il a été extrêmement intéressé parce que ça complétait une observation très aiguë chez lui. Parce que son observation s'est quand même développée au moment de la guerre 14-18 et que les moments de guerre sont des moments d'observation de la nature humaine et de la vie sociale quand elle se désagrège et qu'elle, avec tout ce qu'elle révèle. Il est un psychologue et moraliste, c'est lui qui disait, dès 1924, il dit « je serais sans doute un bon écrivain, mais plutôt moraliste et psychologue ». La psychologie l'intéresse énormément, par la psychanalyse et par la lecture de Dostoïevski en particulier.
Et qu'est-ce que ça signifie quand vous écrivez que Kripur est un nouvel Oedipe ?
Ah !
Eh oui, hein. Faut pas écrire n'importe quoi, parce qu'après on vous demande ce que ça veut dire.
Guillou, alors, il faudrait redire que Edmond Lambert a été parmi ses amis, ses lecteurs. Il avait 25 ans de plus que lui. C'était un homme qui avait une lecture très intéressante de ses œuvres, qui lui a donné toujours des tas de conseils et qui, dès l'Indésirable, lui a dit « Vous n'avez pas le sens de la psychologie. À travers les trous dans votre livre, on voit Freud. » Et alors il lui dit, il faut laisser de côté ce que vous avez lu et compris de Freud, observez vous-même, ne perdez aucune occasion d'observer vous-même. Donc à partir de là, il a suivi ce fil, effectivement, il a observé lui-même, y compris Palante et ses contradictions psychologiques, et il a réfléchi et observé ce qui l'entourait au moment de 14-18, c'est-à-dire des pères qui envoyaient au front leurs fils avec des grands discours, des grands espoirs patriotiques, etc., en se payant de mots, comme dit Grégoire Le Ménager. Et donc, il est allé lire Œdipe Roy et il a réutilisé ce texte littéraire pour essayer de comprendre ce qui se jouait à ce moment-là. Et donc, l'Œdipe, il l'a recompris comme le fils qui veut tuer son père, mais il voyait aussi qu'il fallait compléter par le père qui veut tuer son fils, c'est-à-dire Laios qui a voulu tuer Œdipe. Et donc voilà, dans sa réflexion sur Palante, qui avait effectivement un fils qu'il a envoyé, enfin laissé aller au front, enfin il a réfléchi en se réappropriant Œdipe Roy, effectivement, mais d'une manière littéraire, en quelque sorte, pour dépasser Freud ou pour revenir aux sources de la réflexion de Freud.
Et ben voilà, on a la réponse. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Louis Guillou avec vous, Sylvie Golvet. Il y a une expression qui revient beaucoup dans votre livre, c'est l'idée, l'expression « se dégager ». Comme si Louis Guillou devait, pour devenir écrivain, c'est le titre de votre livre, devenir romancier, devait se dégager de plusieurs choses. Alors, il doit se dégager de ses amis vorticistes. Vous le soulignez, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il doit se dégager politiquement, il doit se dégager du catholicisme. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, nous expliquer ce que vous entendez par cette idée du dégagement, de se dégager ?
Oui, se dégager. Se dégager, ça voudrait dire aussi ne pas se laisser engager. C'est-à-dire que dans les années où il y réfléchit énormément, c'est-à-dire les années... disons en gros 28, 30, 32, 34, 35, il y avait des pressions très fortes pour choisir son camp. C'est-à-dire être littérairement être populiste ou prolétarien ou pas. Donc il a refusé de se laisser engager dans des écoles littéraires.
Mais populiste d'ailleurs, c'est un mot qu'on ne comprend plus très bien. Qu'est-ce que c'est un écrivain populiste ?
Oui voilà, mais à son époque c'était tout simplement suite au manifeste de l'école, enfin manifeste populiste de Léon Lemonnier en particulier, qui avait pris contact avec lui et qui au départ le citait comme un écrivain populiste pour la Maison du Peuple. Il a refusé d'adhérer à cette façon de concevoir la littérature qu'il considérait comme bourgeoise, comme un regard bourgeois sur le peuple. Il a refusé aussi de se laisser engager par le projet d'école d'Henri Poulaille. Henri Poulaille qui le cite dans son livre Le Nouvel Âge littéraire comme un écrivain prolétarien. Voilà. Son idée, c'est d'être à son compte, donc oui. D'être un écrivain.
Il mourrait à son compte.
Voilà. Un franc-tireur, un homme à son compte, un écrivain à son compte. Et avec les communistes, il y a eu le même problème, c'est-à-dire que son idée était de ne pas se laisser dicter de l'extérieur les manières d'écrire.
Et peut-être moins connu encore, se dégager donc du catholicisme, parce que la femme de Louis Guillou, Renée, était très catholique. C'est pas pour ça qu'il s'est dégagé de sa femme, mais elle cherchait peut-être à le convaincre de se convertir.
Oui, il a eu une période d'hésitation. De toute façon, il y avait déjà la sensibilité assez alors chrétienne, on va dire, dans le caractère de sainteté un petit peu de sa mère. Donc ça venait de loin. De toute façon, en Bretagne, il a grandi dans un environnement très chrétien, où les curés avaient quand même beaucoup de place. Il a une période d'hésitation, de croyance même, de ralliement au catholicisme dans les années 28-30, pendant 2 ans, ça le déstabilise beaucoup. Et puis, il arrive à la conclusion qu'il est un angoissé par nature et que, croyance ou pas, ça change pas grand-chose. Et donc, il réussit aussi à se dégager de cette... tentation, peut-être, c'est un peu le mot qu'il emploierait, chrétienne, au cours de l'écriture de Dossier confidentiel, qui a été une épreuve très difficile pour lui. Mais dans
donc
laquelle...
C'est un des romans, finalement, qu'on connaît le moins, Dossier confidentiel.
Oui, qu'il a écrit après, donc, enfin, qu'il a publié après La Maison du Peuple, paru en 1930, qu'il a dû réécrire 2 fois. Parce que Lévy, Gabriel Marcel, Jean Guénaud considéraient qu'il n'était pas du tout au point, ce manuscrit-là. Et en écrivant ce livre, comme quoi écrire un livre est vraiment une aventure pour lui, il a aussi mis en lumière le rôle négatif de l'Église institution, pendant la guerre 14-18. Les prêtres qui bénissaient les canons, etc., qui prêchaient en affirmant que la guerre était envoyée par Dieu pour punir nos péchés, etc., enfin des discours qui lui paraissaient complètement invraisemblables par rapport aux réalités humaines et sociales qu'il observait. Et donc, ça a été, cette période de l'écriture difficile du dossier confidentiel, une période de réflexion sur le dégagement. Et ça accompagnait une progression vers une écriture non militante, c'est-à-dire où il a vraiment là, avec beaucoup de difficultés, mais il a trouvé sa voie qui était de montrer... sans donner son avis, montrer, sans dire au lecteur ce qu'il doit penser.
Je voudrais qu'on termine, qu'on aborde un dernier thème, parce que vous avez écrit aussi, en plus de votre livre « Louis Guillou, devenir romancier », avec Michel Touré, un livre intitulé « Ok Joe, le dossier d'une œuvre », c'est une édition critique. Et c'est un récit qui est publié en 1976 sur lequel il faut s'arrêter un petit peu. Ça rapporte des événements qui datent, eux, de 1944. Peut-être, avant d'en parler, je vous propose d'écouter Guillou raconter cela à Jean Levray.
Moi, je ne savais pas où j'allais. Moi, j'étais entendu depuis longtemps que quand les alliés débarqueraient, je serai l'interprète du nouveau maire, du maire de la Libération, M. Royer, un homme très bien d'ailleurs. Et ben bon, quand les Américains sont entrés, je suis allé à la mairie, il y avait le maire, bon ça va, vous restez là. et j'attendais mes officiers américains et tout ça. Mais ils venaient personne. Ils n'avaient pas besoin de moi. Ou bien ils savaient assez de français, ou bien les professeurs du CRU, etc., suffisaient. Et moi, je m'ennuyais. Et un jour, ils sont arrivés, moi, j'ai raconté ça dans le bouquin. Deux officiers américains, deux lieutenants, qui m'ont dit, on a besoin de quelqu'un, est-ce que vous venez ? J'ai demandé au maire la liberté de me dire d'accord, et je suis parti. Mais je ne savais pas que j'allais au tribunal. Je ne savais pas du tout. Ce n'était pas un métier fait pour moi.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ben non. Mais enfin, c'est une expérience, il ne faut pas les regretter.
Voilà, cette expérience racontée beaucoup d'années plus tard dans Hockey Joe. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Sylvie Golvé ?
Oui, beaucoup d'années plus tard, effectivement, puisqu'il a pris des notes dans ses carnets sur les événements de la libération de Saint-Brieuc au jour le jour. Alors, quand je parle des carnets, j'y inclus les brouillons des carnets, qui sont beaucoup plus volumineuses que ce qui a été publié. Donc il a pris des notes, effectivement, dès 1944. Par contre, dans les brouillons des archives, je n'ai pas retrouvé la partie de notes qu'il a certainement prise pendant les moments où il a suivi l'armée américaine. Donc ils sont allés à Morlaix jusqu'à Brest et ensuite ils sont sortis de la Bretagne. Mais 1944, ça a été publié 30 ans après, effectivement. Mais entre les deux, il y a eu plusieurs tentatives pour donner une forme à cette expérience, comme il dit, avec laquelle il était un peu mal à l'aise. Et il a réussi finalement, dans Hockey Joe, à retranscrire à la fois cette expérience d'interprète auprès de l'armée, des tribunaux de l'armée, de la 8e armée américaine, en faisant un retour en arrière pour donner de la perspective et montrer comment se sont passés les derniers jours de l'occupation nazie dans une petite ville qui est Saint-Brieuc et en Bretagne, et les premiers jours de la prise de pouvoir du nouveau pouvoir officiel. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Oui, il a cherché à plusieurs époques à donner une forme et il y a réussi très bien. Enfin, c'est un des livres que je préfère, Hockey Joe. Mm-hmm. Il a réussi très bien dans Hockey Joe, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver la forme adéquate.
Et puis, il lui a fallu peut-être beaucoup de temps pour que les États-Unis cessent d'être ce pays qu'on ne peut pas attaquer quand on est français et qu'on a été libéré par les Américains. Parce que, en effet, Hockey Joe raconte comment le traitement entre les Noirs et les Blancs par le tribunal américain est évidemment très 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 différent. Et il a fallu attendre la guerre du Vietnam et puis que les choses se décantent un petit peu. C'est cela, Sylvie Golvé ?
Oui, c'est ça. Il a fallu attendre que l'image des États-Unis soit modifiée auprès du électorat potentiel, même si très rapidement, et d'ailleurs il en fait état dans le récit même, très vite on a vu fleurir sur les murs des US Go Home. Mm-hmm. Voilà. Mais il a fallu 30 ans, il a fallu que l'image des États-Unis se modifie. Et il y a peut-être un rapport, une relation entre cette résistance-là à trouver la bonne forme pour faire ce récit, et puis cette image des États-Unis qui a petit à petit été modifiée par ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Mmh. Et le mouvement des droits civiques aussi aux États-Unis, qui a mis en lumière le sujet dont il traite et qui donne d'ailleurs ce problème qui donne à Hockey Joe une actualité encore aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ouais. Et on peut renvoyer aussi peut-être au livre d'Alice Kaplan paru en 2007 chez Gallimard. Ça s'appelle L'interprète.
Oui, elle est la première à avoir fait des recherches dans les archives de l'armée américaine quand elles ont été ouvertes à la consultation, et elle a voulu voir si les procès qui sont relatés par Guillou dans Hockey Joe, qui est un texte qu'elle a traduit aux États-Unis, avaient des fondements réels, et elle a aussi enquêté auprès de témoins en Bretagne.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, ces précisions, ces récits, Sylvie Golvet, sur le cheminement de Louis Guilloux. Je rappelle que vous êtes l'auteur des livres Louis Guilloux, devenir romancier, ainsi que de l'édition critique de Okejo, tous deux disponibles aux presses universitaires de Rennes. Demain, nous parlerons de Guilloux dans la presse, ainsi que de ses choix politiques. Ce sera avec Jean-Baptiste Le Gavre. Et puis, elle vient de sortir ses papiers, la nouvelle revue de France Culture remaniée de fond en comble. Vous la trouverez dans toutes les bonnes librairies. Mais avant d'y courir, eh bien, vous avez rendez-vous comme chaque jour avec Jacques Bonafé. Jacques Bonafé qui continue de lire de la poésie haïtienne.
Bonjour. Comme pour reprendre le fil de cette anthologie de poésie haïtienne contemporaine parue en Poésie Point, nous quittions hier Harry Klang, poète né en 41. Et nous lui cédons l'envoi aujourd'hui. Nous écrivons avec nos hontes et nos suppurations. Nous écrivons dans la douleur, l'estomac noué. Nous écrivons la main tendue vers ceux qui nous ignorent. Là est notre manière poète de guérir nos blessures. Et Franck Étienne, lui, il est né en 36. S'il arrive que tu tombes, apprends vite à chevaucher ta chute, que ta chute devienne cheval pour continuer le voyage. Ville est mon navire, ville est mon cheval, ville est mon royaume, ville ma proxénète, ville ma courtisane, ville ma nymphomane, ville ma concubine. Ma croisière me débauche, mon tatouage de douleur, mon nid de volupté, ma délinquance femelle et ma déliquescence. Mes brûlures, mes désirs dans mon corps masochiste, plaisir et déplaisir dans ma chair endiablée, ma galaxie hantée, ma langue hermaphrodite, fiel et miel dans ma bouche, amertume et douceur aux épices de mes lèvres, mon pays lupanar. Ces villes nous rappellent Rodney Saint-Éloi. Il est né en 63. Toute ville est un récitatif. J'apprends du verbe apprendre le bon usage des rues, les paysages de silence, les plages de l'extase, l'amitié des lauriers, l'élégance de l'oiseau-mouche, l'allaitement des ibis. J'apprends par exemple que la mer est un immense gâteau bleu. Les soirs d'orage, quand les nuages font la gueule, les femmes se couchent côté est pour aider le soleil à se lever. Poème Résistance de Ketly Mars, elle est née en 58. Contre la folie de tous les racismes, contre les violeurs et le sexisme, contre l'hypocrisie et le paternalisme, contre les phobies et le négationnisme, contre l'oubli et les néocolonialismes, contre l'acculturation des pseudo-évangélismes, contre la mort lente par néolibéralisme, contre les guerres saintes et les angélismes, la poésie est la seule arme de construction massive. Elle écrit aussi « Danto, femme terre », cette femme belle, noire, son parfum dans mon ventre me poignarde doucement. Elle me tue d'une mort qui donne vie, toujours plus de vie. L'histoire d'un peuple est souvent couvée à même sa poésie. C'est là que se jouent les cadastres, les enjeux de dignité, de citoyenneté et le désir de faire peuple neuf, de retrouver cette terre de femmes et d'hommes debout. Ça, c'est dans la postface de cette anthologie et c'est signé James Noël et Rodney Saint-Éloi. Et pour nous quitter, Guy Régis Junior. Ô âme, ô amour, âme, amour, ô âme, ô amour, ô âme, amour, âme, ô amour, ô âme, ô amour, ô âme, ô amour, âme, amour, ô âme, ô amour, ô âme, ô amour, âme, amour, ô âme, ô amour, ô âme, ô amour, âme, amour, ô âme, ô amour, ô âme, ô amour, âme, amour, ô âme, ô amour, ô âme, ô amour, âme.
Merci Jacques Bonafé, à demain.